Bonjour à tous. Ça fait plaisir de se retrouver. Enfin, pour ceux qui viennent seulement de rentrer, il y a d'autres qui ont été là pendant le mois, tout le mois d'août. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder un texte très connu. C'est quand celui où Jésus calme la tempête. Et en fait, à la fin du mois, le dernier groupe de maison fin juin, chez Ximena. Ximena a partagé que ce texte l'avait touché. Et la façon dont elle l'a partagé, ça m'a touché aussi. Et puis, ça m'a donné envie de revenir un peu sur ce texte et d'approfondir. Donc, c'est un récit qui est commun aux trois évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc. Et le contexte du passage, c'est que Jésus a enseigné pendant une longue journée, il a guéri pas mal de personnes. Et il a notamment raconté la parabole du semeur. Et puis, il y a une foule qui est importante qui est avec lui. Et donc, comme il a tellement de monde autour de lui, les disciples lui disent, monte dans la barque. Il monte dans une barque et il s'éloigne un tout petit peu du rivage pour pouvoir parler à tout le monde sans être pressé par la foule. Et puis, la voix porte sur l'eau. Donc, ça permet de parler à des foules de plusieurs centaines ou de milliers de personnes. Et alors, on va lire donc dans Marc 4, 35 à 41, si tu peux mettre la première. Voilà. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Donc il était dans la barque déjà, et puis donc ils ont pris la barque et puis ils sont partis. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Donc c'est un texte assez court, on va commencer au verset 35. Donc d'abord c'est Jésus qui demande à ses disciples de passer à l'autre bord. Alors une des raisons, c'est d'échapper à la foule. On voit dans Marc, dans le passage parallèle de Marc, que Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Et donc le lac de Galilée, c'est un grand lac qui fait à peu près de la taille de Paris, je dirais. Et puis, donc ils passent de la partie de la Galilée et ils vont aller à l'autre bord. Alors on peut aussi peut-être penser que si Jésus était revenu sur la berge avec la foule qui était devant lui, il ne l'aurait pas laissé partir. Et c'était le soir, et donc voilà. Mais bon, les disciples, en tout cas, emmène Jésus. Alors on peut penser que c'est a priori les disciples au moins qui étaient pêcheurs, donc comme disciples qui étaient pêcheurs de poissons. Il y avait Pierre, André, Jacques et Jean, donc ils le prennent dans la barque. Peut-être pas tous dans la même barque, les récits sont un peu différents, mais en tout cas ils partent à plusieurs barques. Et c'est Jésus qui leur dit d'aller vers la tempête. On peut penser que le lac était vraiment suffisamment calme pendant toute la journée, parce que sinon, être sur une barque avec les vagues pour parler, ça n'aurait pas été pratique. Donc à mon avis, le lac était bien calme, mais après, il y a eu une tempête qui est arrivée. Alors est-ce que les disciples qui connaissaient bien le lac, la météo, etc., qui avaient l'habitude ils ont vu peut-être la tempête qui arrivait, ou alors au contraire, ils ont été surpris comme... Bon, on ne sait pas. En tout cas, la Bible n'en parle pas. Mais... ce qui est sûr, c'est que c'est un lac, les gens le disent, c'est un lac où la tempête peut arriver d'un coup, parce qu'il y a le mont Hermon qui est assez haut, et donc il peut y avoir des vents contraires, des vents chauds et des vents froids qui se mélangent, donc voilà, ça peut vite faire une tempête. Mais on peut se demander pourquoi Jésus ne leur demande-t-il pas simplement, bon allez, on va aller un petit peu plus loin, à quelques centaines de mètres, pour s'échapper de la foule et puis revenir sur la terre. Non, il leur dit, allons à l'autre bord. Chez les non-juifs, c'est une partie qui est de l'autre côté du lac, c'est les non-juifs. On sort du confort de la Galilée, où ils étaient connus. Et puis, ben, ils ne sont plus habitués. Les disciples ne sont pas habitués à cette partie de la Judée. Et puis en plus, il était tard, donc on peut imaginer qu'ils se sont dit ben, on va passer la nuit dans la barque pour traverser. On ne sait pas ce que la Bible ne nous dit pas, toutes les questions qui sont posées, mais nous, en tout cas, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on se pose ce genre de questions. Enfin, en tout cas, moi. Mais pourquoi on veut comprendre, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas obéir à Dieu comme l'ont fait les disciples, sans se poser de questions? Même si ça va à l'encontre de nos habitudes, de notre expérience. Alors la différence, à mon avis, pour moi, c'est est-ce que cela vient de Dieu? Moi, si Jésus me dit, va là-bas, il y a la tempête qui arrive là, mais vas-y, moi j'y vais sans problème. Hein. Enfin, je pense que... Mais la plupart du temps, ben, la question c'est un peu, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'envoie là-bas? Est-ce que j'ai bien écouté? Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Est-ce que je suis bien à son écoute? Alors moi j'ai peur que je ne suis pas assez en communion avec Dieu pour vraiment entendre sa volonté en tout temps et être sûr que c'est lui qui me parle. J'ai vécu des situations où vraiment j'ai su que Dieu me montrait à faire quelque chose, mais c'est quand même assez rare. Et donc j'ai mis quelques petits messages là pour chaque verset. Tu peux l'afficher. Est-ce qu'on ne devrait pas viser une plus forte communion avec lui pour être sûr d'entendre sa voix quand il nous parle? Parce que c'est en fait là, hein, enfin, pour moi en tout cas, c'est là le truc. On est prêt à obéir à Dieu hein, si Jésus nous dit là comme ça, on est sûr que c'est lui. Mais voilà, est-ce qu'on est en assez forte communion avec lui pour être à son écoute, écouter le Saint-Esprit qui nous parle pour faire sa volonté à tout moment? C'est un des thèmes que j'aimerais bien aborder, quand je vais proposer dans le groupe de maison cette année. Voilà. Et bien, si on revient maintenant à la question de pourquoi traverser le lac, quand on lit la suite, on s'aperçoit qu'ils arrivent donc, de le côté du lac qui s'appelle Génézareth. Jésus guérit un démoniaque qui avait beaucoup de démons. Il y a une légion de démons en lui, c'était vraiment... Voilà. Mais après, ils repartent. Tout ça pour ça. Ils ont traversé la nuit, ils ont passé une tempête. Les disciples, ils n'ont sans doute pas beaucoup dormi. Jésus a dormi un peu. Mais voilà, tout ça pour guérir un seul homme. Alors, pour illustrer ça, je vais vous lire une petite histoire que j'ai tirée d'un livre qui s'appelle « Les gens les plus heureux sur Terre ». C'est l'histoire du fondateur d'une œuvre d'évangélisation et c'est l'œuvre d'évangélisation à travers laquelle je me suis converti. Alors, c'est une équipe, en fait, de cette œuvre d'évangélisation qui avait loué un jour un auditorium de 6600 places. C'est dans un quartier de Houston. Et dans ce même quartier, ils avaient fait, une semaine avant, une réunion d'évangélisation dans une plus petite salle de 600 personnes. Il y avait eu 600 personnes, etc. Donc, les organisateurs, par la foi, se disent « Allez, on va viser plus gros. On loue l'auditorium, le City Hall, et avec 6600 places. Ne vous inquiétez pas des chiffres. C'était la parole de Dieu pour nous depuis le début. Quand l'Esprit est aux commandes, les chiffres seront plus grands que ce que n'importe quel homme ne saura jamais. » Alors je continue à lire. « Nous avons donc loué cet auditorium pour une soirée qui devait débuter à 19h30. Quand notre équipe, alors donc c'est le fondateur qui parle, et c'est le fondateur qui devait parler ce soir-là, ils sont 7. Quand notre équipe arrive à 18h45, le parking est vide. En rentrant dans la salle complètement vide, seul le gardien nous accueille en nous disant « J'ai placé les spots comme vous le vouliez. » Nous prenons place sur l'estrade et attendons. 19h15, 19h30. 20h, toujours personne, pas une seule personne. « Bon, que faisons-nous » demande l'un. « Nous avons loué ce grand endroit pour la soirée. Est-ce que nous aurons une rencontre quand même, juste tous les 7 ?» Puis il me demande, donc il demande donc au fondateur, qui n'était pas un évangéliste, c'était plus un entrepreneur, voilà, c'était pas quelqu'un qui évangélisait comme ça, hein, mais voilà, c'est lui qui devait parler ce jour-là. Et il lui demande, qu'est-ce que tu avais prévu de dire, Demos? C'est alors que Lottie Jefferson, l'intendante de l'équipe, se lève et dit « C'est moi qui vais donner la conférence. J'ai toujours voulu parler dans un endroit magnifique comme celui-là. » Elle s'est levée, s'est mise au pupitre et elle a commencé à parler. Elle ne faisait pas plus de 50 kilos, mais sa voix remplissait la salle de 6600 places. Pendant ces 35 minutes, elle prêcha comme si tous les sièges de cet endroit avaient été occupés. Chaque mot était si plein d'amour et de vérité de Dieu que j'ai senti toutes les tensions de la semaine dernière s'écouler de moi. Lui, parce que en fait, le fondateur, il n'était pas habitué à parler non plus, et pendant toute la semaine, il disait est-ce que c'est vraiment le voilà, qu'est-ce que je vais dire, etc. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. La seule chose que je n'ai pas comprise, c'est l'appel qu'elle a donné à la fin. Parce que bien sûr, nous tous les six, dans son auditoire, nous avions depuis longtemps donné notre cœur à Jésus. Ça avait été un merveilleux message, mais pourquoi un appel ? Un appel à la conversion. Alors, la chose que je n'oublierai jamais, j'ai entendu des pas. Derrière nous, dans l'allée vide, arrivait le gardien. Les larmes coulaient sur son visage pour s'agenouiller devant l'estrade et donner son cœur à Dieu. Et Lottie, à la manière d'un évangéliste qui conduit chaque jour des centaines de personnes à Jésus, posa ses mains sur sa tête et commença à prier avec lui. Qui sait, peut-être qu'il n'y avait pas d'erreur, peut-être que le City Auditorium cette nuit-là était la place que Dieu avait préparée pour cet homme, la personne qu'il cherchait. Je savais seulement, comme on me l'avait rappelé une fois de plus, que seul le Saint-Esprit peut attirer les hommes à Jésus. Voilà cette histoire qui montre que, ben voilà, il y a des moments où Dieu peut prévoir des grandes choses pour une seule personne. Dieu n'agit pas toujours comme on le penserait. Tu peux afficher le... Voilà. J'ai mis quelques petits messages comme ça pour... Mais bon. Il peut faire bouger des montagnes pour attirer une seule personne à lui. Et c'est un peu la même chose pour ce lac, enfin pour cette histoire avec le lac. Ben, pour un seul homme, Jésus a fait traverser plusieurs barques de disciples, aller-retour, avec une tempête au milieu. Mais alors ce qu'on voit après, c'est que cet homme qui a été guéri, il va être un formidable évangéliste et il va aller annoncer ce que Dieu a fait pour lui dans toutes les villes de sa région, qui est donc la région à l'est du lac de Galilée. Donc voilà, ça c'est quand même... on sait que Dieu fait les choses comme il faut. Alors si maintenant on continue le verset 37, « Il se leva un grand tourbillon, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. » La tempête arrive, elle est suffisamment forte pour que la barque commence à sombrer et les disciples, ils pensent qu'ils vont mourir. Bien que les disciples soient avec Jésus sur le bateau, ça ne signifie pas qu'ils soient à l'abri. Dieu n'a jamais promis que si nous le suivons, tout ira bien, sans problème, en toute sécurité. Ce que Dieu a promis, c'est par exemple Hébreux 13, 5, « Non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous et il est plus puissant que n'importe quelle situation. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et en Marc 6, 48, donc deux chapitres après, il y a un épisode qui ressemble un petit peu, l'épisode où Jésus marche sur l'eau, mais en fait là, Jésus n'est pas avec eux, au départ, il prie sur la terre ferme. Les disciples, ils sont là, c'est pas une tempête, mais ils ont du mal à ramer parce qu'il y a le vent qui est contre eux. Et ben, on voit que Jésus, il est très très loin, hein, il est sur la terre ferme, mais il voit qu'ils ont du mal à ramer. Et il va les rejoindre en marchant sur l'eau. Même quand on a l'impression, là tu peux rajouter le... Même quand on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous, il sait tout et voit toute chose et il prend soin de nous. Au verset 38, on peut passer le verset 38, ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Donc là, on voit que dans cet évangile, il ne le réveille pas pour lui demander d'aide, il lui dit simplement, ils lui font un peu un reproche, « Tu t'occupes pas de nous ?» Alors, il y a peut-être aussi derrière, est-ce qu'il y a le reproche de « Tu nous as fait partir alors qu'il y avait la tempête qui arrive, etc. » On ne sait pas, hein, mais bon, voilà. On peut se dire qu'il y a peut-être derrière ça. Mais en tout cas, ils ont l'impression que Dieu ne s'occupe pas d'eux, qui dort tranquille et qu'il n'est pas vraiment là en fait. Et c'est pareil, hein, moi je pense que ça nous arrive aussi. Il y a des moments où on a l'impression que Dieu n'est pas vraiment là. Il est même absent, est-ce qu'il nous écoute ? Quelles que soient les difficultés qu'on traverse, que ce soit la maladie, l'abandon, la pauvreté, la solitude, le malheur, on peut facilement reprocher à Dieu de ne pas s'occuper de nous. Alors dans Matthieu et Luc, les passages parallèles, ils demandent aussi de le sauver. C'est-à-dire qu'ils disent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Et qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire. Là, ils connaissent le lac. Je pense qu'ils ont attendu un petit peu avant de réveiller Jésus. Puis à un moment, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à gérer et que là, ils ont commencé à avoir peur de mourir et ils réveillent Jésus. Et Dieu attend que nous reconnaissions notre misère, que nous nous appuyons plus sur notre propre force, mais sur lui, pour agir. C'est quand nous n'avons plus de solution... Ça, c'est mal imprimé, donc... C'est quand nous n'avons plus de solution autre qu'en Dieu que nous développons notre foi. Tu peux le mettre, voilà. Et l'un des buts de cette épreuve, parce que donc il y avait le fait d'échapper à la foule, mais il y avait aussi, Jésus fait tout comme il faut, hein. L'un des buts de cette épreuve, c'est de les faire grandir. Il nous conduit à travers toutes sortes de situations, des épreuves, pour nous faire grandir, nous apprendre à compter plus sur lui, à lui faire confiance. Alors quelquefois, on ne s'en aperçoit même pas. Je pense que par exemple, ma prière, quand il y a une épreuve, que ce soit pour moi ou pour les autres, ma prière, c'est qu'on arrive à comprendre pourquoi il y a cette épreuve et puis que Dieu nous enseigne. Et quelquefois même, on ne comprend pas et Dieu ne répond pas. Mais voilà, la prière qu'on peut avoir, c'est que Dieu, qu'on soit à l'écoute de pourquoi il y a cette épreuve et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette épreuve. Ensuite, au verset 39, on voit la puissance de Jésus. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Donc là, Jésus a autorité sur la création. Et par ce passage, Jésus montre à ses disciples qu'il est Dieu. Il dévoile sa divinité et on peut lire, il y a beaucoup de passages qui montrent l'autorité de Dieu sur la création et notamment sur la mer. Psaume 65, il apaise, donc Dieu, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Psaume 107, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. C'est le psaume 107 sur les gens qui sont dans la mer et qui sont prêts de mourir aussi. Et donc, on voit que dans ce passage, Jésus montre son autorité sur la nature. Et on voit juste après, quand ils reviennent en Galilée, Jésus va faire trois miracles qui montrent l'autorité de Jésus d'abord sur le surnaturel. Alors sur le surnaturel, en fait, c'est donc le démoniaque qui est guéri, donc côté Génézareth. Ensuite, sur la maladie, quand ils reviennent, Jésus guérit une femme qui a une perte de sang, qui le touche et elle est guérie. Et puis, juste après, il a le pouvoir de Jésus sur la mort où Jésus guérit la fille de Jaïrus, enfin ressuscite la fille de Jaïrus. Donc on voit que c'est à travers ces événements que Jésus s'est progressivement révélé comme le Fils de Dieu. Tu peux le mettre, voilà. Jésus est tout puissant, il a la solution pour tous les problèmes. Mais il faut noter que c'est aussi par sa parole que Jésus calme la tempête. Jésus a promis de demeurer avec nous si nous demeurons dans sa parole. Rien ne peut nous séparer de son amour, rien ne peut nous arriver qu'il ne soit pas capable d'empêcher. S'il permet la tempête pour un temps, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous purifier et apprendre à compter sur lui. Alors en parallèle de cette démonstration de la divinité de Jésus, on voit aussi son humanité. Il laisse les disciples s'occuper de la foule. Il se laisse emmener avec eux dans la barque. Et puis il est fatigué, il s'endort dans la barque. Au verset 40, juste après avoir ramené le calme, il leur demande pourquoi ils ont peur. Alors, est-ce qu'il leur reproche la peur de mourir ? Non, je ne pense pas, parce que Jésus rapporte plutôt cette peur au manque de foi. Donc, c'est plutôt la peur que Jésus les abandonne, les a abandonnés ou ne s'occupe pas d'eux. Que Jésus Dans leur question à Jésus, on voit qu'ils ne doutent pas que Jésus peut faire quelque chose. Sauve-nous. Donc ils savent déjà que Jésus a la puissance, mais ils se demandent si Jésus va faire quelque chose. C'est un peu là qu'est leur manque de foi, en fait. Et pourtant, Jésus n'a pas dit qu'il coulerait, il n'a pas dit qu'il sombrerait, mais il a dit « allons de l'autre bord », comme dit le chant. Si Jésus l'a dit, cela arrivera. Ça, c'est la foi. Croire en la parole de Dieu. Mais on peut savoir que Jésus est tout puissant pour nous sauver d'une épreuve, mais avoir peur qu'il ne fasse pas. Parce qu'en fait, c'est quoi ce qu'on demande ? Est-ce qu'on demande à être sauvé de l'épreuve ? Voilà, guéri, libéré, etc. Enfin, sorti de l'épreuve ? Ou est-ce qu'on demande que Jésus s'occupe de nous ? C'est lui qui sait ce qui est de mieux pour nous. Jésus nous appelle à placer notre confiance en lui et pas dans les solutions qu'on imagine, en fait. Tu peux le mettre, voilà. Ça, c'est pour moi quelque chose, enfin, ce passage m'a vraiment montré, la foi là, qui leur manque, c'est de ne pas savoir que Dieu, Jésus, s'occupe d'eux. C'est pas le fait de savoir s'ils vont mourir, de ne pas savoir, etc., mais c'est vraiment le fait de savoir que Dieu, Jésus s'occupe d'eux. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile, surtout quand on ne sait pas exactement où on va. Moi, par exemple, quand j'étais célibataire, ben, c'est pas le fait de ne pas être marié qui m'embêtait, c'est le fait de ne pas savoir ce que Dieu voulait pour moi. Et moi, ma prière, c'était pas donne-moi une femme, c'était montre-moi ce que tu veux pour moi. Voilà. Pendant longtemps. Et Dieu me l'a montré en finale. Mais donc, c'est pareil pour une épreuve comme la maladie. Voilà. Est-ce que Dieu va nous guérir ? C'est pas ça qui doit nous faire peur. Alors, je ne minimise pas les épreuves, je ne minimise pas le malheur hein, du tout. Mais voilà, est-ce que le fait de savoir que Dieu a tout dans ses mains, enfin, c'est pour moi le fait de savoir que Dieu a tout dans ses mains qui va nous permettre, qui est la foi, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes persécutées qui vivent ça aussi. C'est-à-dire que ils placent leur confiance en Dieu, quoi qu'il arrive, ils savent que Dieu contrôle tout, ils savent que peut-être qu'ils vont mourir, peut-être qu'ils vont passer des années en prison, mais ils savent que Dieu contrôle tout. Et c'est pas la solution, c'est pas ce qu'on pense, ce qu'on aimerait, c'est que Dieu s'occupe de nous. Et d'ailleurs, dans les deux derniers versets d'Hébreux 11, le chapitre sur la foi, on voit que ceux qui n'ont pas obtenu, et ça finit par ceux qui n'ont pas obtenu la délivrance qui était promise, qui sont quand même morts, etc., on voit qu'ils ont eu la foi qu'ils l'obtiendraient là-haut avec tous les saints. Et donc la foi, c'est pas être sûr que Dieu va agir comme nous on le pense, mais c'est être sûr que Dieu agira, quoi qu'il arrive, selon sa volonté, et aussi que tout concourt à notre bien. Romains 8, 28, c'est mon verset préféré. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce n'est pas être sûr que Dieu nous délivrera, là tu peux le mettre, mais être sûr qu'il conduit toute chose pour notre bien. Voilà. Et c'est lui qui sait mieux que nous ce qui est bien, en fait. Dieu conduit les événements pour renforcer notre foi. Il est le maître absolu sur toute chose. Alors c'est intéressant de comparer les trois évangiles. Dans les trois évangiles, la question que leur pose Jésus, en Marc, c'est « Comment n'avez-vous pas de foi ?» ou alors littéralement « Vous n'avez pas encore la foi ?» En Matthieu, c'est « Gens de petite foi ?» Et en Luc, c'est « Où est votre foi ?» Donc on voit qu'il y a une gradation. Les uns n'ont pas encore de foi, les autres, ils ont un peu de foi, et les autres, ils ne placent pas la foi là où il faut. Et ce que Jésus dit sur leur peur, ça va avec. À ceux qui n'ont pas de foi en Marc, c'est « Pourquoi avez-vous si peur ?» À ceux qui ont un petit peu de foi en Matthieu, c'est « Pourquoi avez-vous peur ?» Et puis en Luc, Jésus ne leur reproche pas la peur. C'est intéressant, bon. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que les différences, c'est parce qu'ils n'étaient pas obligatoirement dans la même barque, on ne sait pas, mais ça peut être aussi simplement parce qu'ils avaient une différence de perception. Tous ne sont pas au même niveau de la foi, tous ne sont pas au même niveau de la confiance en Jésus. Et ce qu'on sait en tout cas, c'est que leur peur, elle vient du manque de foi, le manque de la confiance qu'ils sont avec Jésus. Jésus a dit, passons de l'autre bord, ben on va passer de l'autre bord. Voilà. Quand Dieu nous a convaincus d'une chose, alors la foi, c'est s'accrocher à la vérité que notre raison a acceptée et s'y accrocher malgré les émotions, malgré les désirs, les humeurs du moment et malgré surtout les circonstances. Et si on va regarder maintenant le verset 41, oui, pardon, mais voilà. Et si on regarde maintenant le verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Donc le passage s'est conclu par la frayeur des disciples devant la puissance de Jésus. Alors c'est pas la même peur, c'est une crainte mêlée d'étonnement, d'admiration. On voit dans les passages parallèles aussi, en Matthieu et Luc, que c'est la crainte mais aussi l'admiration devant Jésus. Ils voient que Jésus n'est pas un simple homme de Dieu ou un rabbi, mais vraiment qu'il a la puissance du Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant. Alors, ils ne comprennent pas encore vraiment complètement que Jésus est Dieu. Nous, on a tout le tableau. C'est un peu plus simple pour le voir. Il faut bien se dire que là, c'est un peu au début du ministère de Jésus. Les disciples ne connaissent pas Jésus depuis très longtemps. Il va leur falloir du temps pour comprendre, pour connaître Dieu, Jésus, et puis accepter qu'il est le Fils de Dieu. Même Pierre, qui va plus tard, un peu plus loin, déclarer « Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », même avec cette déclaration, à ce moment-là, il est vraiment saisi par l'Esprit, il prononce cette parole, et on pense, enfin voilà, petit à petit, ils comprennent avec tous les disciples que Jésus est le Fils de Dieu, mais au moment de l'arrestation de Jésus, Pierre y doute. Et puis, entre la crucifixion et la résurrection, ils passent tous des moments de doute. Ils se demandent vraiment, voilà, ils sont perdus là. Et puis, juste après la résurrection, là, ils comprennent tout le tableau. C'est comme les disciples d'Emmaüs, mais voilà, les autres, ils ont eu, je pense, la même révélation. Avec la résurrection de Jésus, tout s'éclaire et ils voient, ils se souviennent de tous les événements comme celui-là et ils voient vraiment, oui, Jésus est le Fils de Dieu. C'est le Messie promis. Il n'était pas venu pour faire la guerre aux Romains, mais il est venu pour souffrir, mourir pour nous, pour payer notre péché. Alors si vous aussi, vous n'avez pas encore vraiment compris que Jésus est le Fils de Dieu, ou même si vous l'avez compris mais que vous n'avez pas encore vraiment donné votre vie à Jésus, lui demander le pardon des péchés, je vous invite à le faire maintenant et puis je vous invite après la fin du culte à venir, le pasteur et les conseillers pourront prier avec vous, parce que c'est vraiment le but de tout ça, c'est Jésus est le Fils de Dieu et pourquoi il est venu sur la terre, c'est pour nous sauver, pour rétablir entre nous et Dieu la communion, que nous retrouvions la communion avec Dieu. Alors en conclusion, pour résumer, Jésus n'a pas promis que nous n'aurions pas d'épreuves, pas de tempêtes, mais il a promis qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et dans l'épreuve, croire que Dieu est présent à nos côtés, même si on ne le voit pas, même s'il n'agit pas comme on penserait, comme on avait envie qu'il agisse. Reconnaître notre impuissance et appeler à l'aide, à son aide. Avoir la foi qu'il est tout-puissant, que lui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, et puis surtout qu'il nous aime parfaitement. Et puis profiter de l'épreuve pour le laisser nous sanctifier, qu'on se rapproche de lui, qu'on lui fasse de plus en plus confiance en toutes choses. Donc ce que j'espère, c'est que ce message, comme l'a dit Hélène au début, ça nous réconforte, notamment dans l'épreuve, quelle que soit la taille de l'épreuve, les petites épreuves et les grandes épreuves, voilà, qu'on puisse vraiment de plus en plus faire confiance à notre Dieu qui nous aime, qui est tout puissant et qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin.